Je suis très touchée. J'ai un peu la voix tremblotante. J'espère que vous allez me pardonner, mais j'ai été très très touchée par la louange. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci. Et on peut applaudir encore plus fort le Saint-Esprit qui agit pendant la louange. Et j'avais envie de mettre un peu à l'honneur le fils de Christine et Jacques. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il sort un film qui est au cinéma en ce moment et qui s'appelle Mars Express. Donc merci, merci Seigneur pour les talents que tu as donnés à Jérémy. Et ça tombe bien parce que je vais parler d'un certain Jérémy dans mon message. Je voudrais remettre dans le creux de ta main, Seigneur. Je voudrais remettre Jérémy dans le creux de ta main. Il y a un talent et une pépite que tu as préparé. Et voilà, on est vraiment très heureux qu'il puisse s'envoler et qu'il puisse un jour proclamer ton message aux grandes nations grâce à son talent. Amen. Alors, est-ce qu'on est bon ? Ah, la technique, c'est ce qu'on préfère. Hein. Alors, si vous avez bien suivi, normalement, vous devez savoir le message que Jean-Luc a prêché trois fois. Tu as fini, je pense, hein ? Oui. Vous savez lequel c'est ? Ah, pas bon. Se mettre à l'écoute du Saint-Esprit. Est-ce que cette semaine, vous vous êtes mis à l'écoute du Saint-Esprit ? Ah, merci, c'est bien, Nadège, bravo. Les autres, c'est simple, hein, pour se mettre à l'écoute du Saint-Esprit. Une des premières des choses, c'est se mettre dans sa chambre et dire, Seigneur, je t'écoute. Qui entend la voix du Seigneur ici ? Ok. Qui ça ? Faites pas les timides, s'il vous plaît, parce que sinon on peut prier pour vous, hein, si vous voulez entendre la voix du Saint-Esprit. C'est important de savoir l'entendre. Alors, qui l'entend, vraiment ? Ok ? Ok, ok. Ok. Alors, moi, j'ai une question. Qui n'entend pas la voix du Saint-Esprit, mais qui aimerait bien l'entendre ? Ok. Donc, en fait, tout le monde ici entend la voix du Saint-Esprit. Et qui n'entend pas la voix du Saint-Esprit et qui s'en fout de l'entendre ? Je sens qu'il y a des tiroirs qui ne veulent pas être ouverts. Et c'est normal. Et vous avez le droit d'avoir votre propre intimité. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez à vos frères et vos sœurs qui vous entourent. Mais voilà, le Seigneur sait où vous en êtes aujourd'hui. Et c'est plein d'amour, comme on a chanté, qu'il vient ouvrir les petits tiroirs pour que nous avancions ensemble. C'est vrai, non ? Parce qu'on est toujours en train d'avancer jusqu'à notre dernier souffle. Et je prie aussi, John et Beryl, ils continuent à avancer malgré leurs grosses difficultés. Et le chemin qui tout doucement se termine, ils avancent encore. Amen. Amen. Parce que la présence de Dieu, c'est dans le cœur. Ok, alors, le thème d'aujourd'hui, c'est « Shema Israël ». Remet les choses dans le bon ordre. Et j'aime bien les petits dessins rigolos comme « Mon Dieu, quand je te parle, j'aimerais bien que tu m'écoutes !» Eh bien, moi aussi, figure-toi. Hein ? Dieu aussi veut qu'on l'écoute. C'est important. On a le droit de parler à Dieu, bien sûr, mais lui, il nous demande. Il nous demande, vraiment. De se mettre à son écoute. Alors, il faut que je vous raconte un peu le contexte de ce qui s'est passé pour que j'en vienne à vous parler de cela. C'était une semaine compliquée, pleine d'émotions, de haut, de bas, de Seigneur qui me parle, qui me reprend à travers mes frères et mes sœurs. Et, ouh, Quand on prend la parole, il faut s'accrocher, hein. Mais sachez que la joie de vous parler sera toujours plus grande que les épreuves par lesquelles je vais passer. Et je prie que tout ce qui va sortir de ma bouche n'a qu'un seul but, vous bénir, et pas l'inverse. Ok ? Donc, je me mets à l'écoute du Saint-Esprit. « Seigneur, que veux-tu que je leur dise ?» Et là, je vois en image, hein, plus que j'entends, parce que le Seigneur peut parler par des images aussi. Jérémie 7, Isaïe 7. Alors, je vais voir. Et bien, c'était bien, Jérémie 7 en premier, Isaïe 7 en complément, en support. Et je vais voir, et là, je me dis, vous savez, parfois, dans la Bible, il y a des passages qui sont assez durs, non ? Non ? Ah bon, on est d'accord. Et je me dis, oh là là, où est-ce que tu m'emmènes, Seigneur ? Où est-ce que tu m'emmènes ? Attends, je te le dirai. Où est-ce que tu m'emmènes ? Et puis, je comprends pas. Et je décide, bon, je me suis peut-être trompée, hein. J'ai peut-être mal entendu, hein. Donc, je le mets de côté, je le mets au lendemain. Et du lendemain, au petit déjeuner, je dis à Mounir, je comprends pas, hein, vraiment, je comprends pas où le Seigneur veut m'emmener. Et je prends l'aspirateur. Vous savez, le Seigneur peut nous parler quand on passe l'aspirateur. Donc je passe l'aspirateur. Et quoi ? J'ai pas entendu. Les chats ? Oui, d'accord, les chats n'aiment pas l'aspirateur. Donc je passe l'aspirateur. Et dans ma tête, c'est oublie un peu. Jérémie et Isaïe. Oublie un peu. Puis je revois tout sur les choses sur lesquelles il m'a parlé et je repense au Samaritain. Et je me dis, ah, c'est vrai, le bon Samaritain. J'avais dit une fois à Mounir qu'un jour je prêcherai sur le bon Samaritain. Et puis je repense à ce qu'a dit Jean-Luc, le fait d'entendre sa voix. Et puis après je relis Jérémie et Isaïe et je dis, mais oui, tac, 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 tout se met en ordre. Alors voilà, je vais vous expliquer ce que je pense que le Seigneur veut que je vous dise aujourd'hui. Est-ce que vous vous souvenez de la parole du bon Samaritain ? On ne va pas tout revoir dans les textes, parce que ce serait beaucoup trop long, d'accord ? Mais c'est quoi le départ du bon Samaritain ? C'est l'histoire d'un docteur de la loi. Merci. C'est un docteur de la loi qui vient voir Jésus et qui lui demande, qui lui pose quelle question ? Est-ce que vous en souvenez ? Je vais vous faire participer. Hein. Moi, j'aime bien quand les personnes en face de moi participent. Qu'est-ce qu'il demande ? Non. Ça, c'est la deuxième question. Mais la première, c'est comment avoir la vie éternelle ? Alors Jésus lui répond, qu'est-ce qui est écrit dans la loi de Moïse ? C'est un docteur de la loi, donc il le renvoie à ce qu'il connaît. Et que répond du coup le docteur de la loi ? Il dit, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, et aime ton prochain. Il dit, tu dis bien, fais cela. Mais le docteur de la loi, je ne sais pas si c'est pour faire un peu son malin, dans la Bible il est marqué pour se justifier. Alors j'ai pas été voir ce que ça voulait dire, mais il avait envie d'aller plus loin. Pour se justifier, ce docteur de la loi dit à Jésus, il lui pose une dernière question, mais qui est mon prochain ? Ok, qui est mon prochain ? Et c'est là où Jésus commence à lui rappeler, ou à lui rappeler, ou le re-enseigner sur, à travers cette histoire du bon Samaritain. Ok, si je vous dis à vous, qui et votre prochain. Vous pensez à qui ? Voisin, ok. Tout le monde peut répondre à cette question, hein. Même toi, hein, Mounir, tu peux répondre. Hein. Qui est ton prochain, Mounir ? Hein ? C'est qui ton prochain ? À qui vous pensez ? Les collègues ? Tout le monde. Il y en a qui disent tout le monde. Ok. C'est qui ton prochain, Mounir ? Je vais venir te chercher, je peux y aller, je suis ta femme. Alors ? Tout ce qui nous veulent du bien. Mais toi, t'as triché, toi, tu m'as écouté, c'est pas possible. Bien. Alors voilà ce que... Vas-y, tu peux y aller. Voilà ce que Et Jésus va expliquer. D'abord, il va lui rappeler « aime ton prochain ». Aime Dieu et aime ton prochain. Est-ce que c'était une nouvelle chose? On dit toujours que c'est Jésus qui est venu dire cela aux chrétiens et que c'est notre étendard à nous les chrétiens. Mais est-ce que ça date du temps de Jésus d'aimer Dieu et son prochain? Non, pas du tout. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pourquoi? Parce qu'en Deutéronome 6:5, il dit « Écoute Israël, Shema Israël ». Écoute, c'est la première chose qu'il dit, Shema. Il y a certains juifs aussi qui disent que le premier des commandements, avant même d'aimer tout ça, c'est Shema, c'est écoute. Parce que si tu écoutes de travers, eh ben après, ça fait des dégâts. Shema Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Et après, il continue à dire, tu vas les donner à tes enfants et de génération en génération. On ne va pas tout dire. Et aussi, tu peux continuer, en Lévitique. Alors le Lévitique, le livre de Lévitique, c'est le livre par excellence de la loi. Ok ? Le Lévitique au chapitre 19, versets 17 et 18, « Tu ne détesteras pas ton frère dans ton cœur, mais tu veilleras à reprendre ton prochain. Ainsi, tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. » Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Mais voilà, ça vient de là. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand Jésus nous dit « aime Dieu et aime ton prochain comme toi-même », bah en fait, normalement, tout le peuple d'Israël est bien au courant. Ok ? Et alors, ça continue. Jacques, tu veux dire quelque chose? Mais non. Parce que, mais tu n'as pas totalement tort et je te le démontrer après. Bon. Et donc, c'est très étonnant parce que. Donc il raconte cette histoire du bon samaritain où il y a quelqu'un qui est complètement abattu sur une route et la route passe et il y a un prêtre et un lévite qui représentent quelque part les spécialistes de Dieu, c'est-à-dire ceux qui représentent vraiment qui est Dieu. Donc la responsabilité sur leur épaule est grande parce que si eux ne représentent pas bien qui est Dieu, tout le monde va partir un peu en cacahuète, ok? Et eux, lorsqu'ils passent sur la route et qu'ils voient la personne abattue, ils ne lui viennent pas en aide. Ils passent à côté. Ok ? Pour nous, les chrétiens, on se dit « Oh, c'est bizarre !» Parce que nous, on a un grand cœur. Et après, il y a le bon samaritain, déjà un samaritain tout court, qui passe et puis qui voit l'homme abattu et qui le prend avec lui et qui en prend soin, qui l'amène carrément à une auberge, qui paye ses soins plus la nourriture et tout ça, donc une question d'argent aussi. Hein. Et voilà. Et ce bon samaritain est le bon exemple à suivre et il dit à la fin qui a été le prochain de la personne abattue? Et mon mari a raison, c'est celui qui nous vient en aide. Mmh. Celui qui nous vient en aide. Alors si je vous dis, fermez les yeux et pensez à une personne qui vous est venue en aide, il n'y a pas longtemps. Cette personne-là, vous pouvez y aller dans l'amour. Hein. Il faut y aller. Il faut aimer. Il faut lui rendre ce qu'il vous a donné. Ok ? Et si un jour, dans les circonstances de votre vie, bien dans les circonstances de la vie, il ne s'agit pas de se jouer au sauveur, hein, c'est-à-dire de donner un salut à quelqu'un qui n'en veut pas. Non, vous êtes dans une situation où vous voyez quelqu'un qui a besoin d'aide, allez-y, aidez, et vous deviendrez le prochain de l'autre. Donc, vas-y. Mon prochain, c'est et celui qui m'a aidé, qui m'aide aujourd'hui, ou qui m'aidera un jour. Alors, j'aime bien cette petite image, parce que Michael m'a dit qu'une image parlait beaucoup plus que des mots. Alors voilà, on ne peut pas aider tout le monde, mais chacun peut aider quelqu'un. Et ça déculpabilise énormément, on n'a pas à jouer le sauveur. Mais dans nos circonstances quotidiennes, quand tu vas à la boulangerie, quand tu vas voir ton infirmière, t'es malade, t'as un petit bobo, tu vas voir ton infirmière, il se peut que ton infirmière ait plus besoin de toi que de... tu le sais pas. Mais Dieu va mettre des circonstances dans ta vie qui fait que, en tant que chrétien, tu auras l'occasion d'aider. Et lorsque tu feras ça, tu feras exactement ce que le Seigneur veut. Parce qu'à la fin, il dit quoi au docteur de la loi ? Qui a été le prochain de l'autre ? Ben celui qui a fait preuve de miséricorde, de éléos en grec. Ok ? Et il a dit, ben, fais la même chose. Mais là, je vous avoue, je ne comprends pas. Alors, il faut que je vous explique quelque chose d'important avant de vous dire une chose que je n'ai pas compris. Il est très étonnant de la part de Jésus qu'il mette le prêtre et le lévite dans la situation de mal faire et le samaritain dans la position où il fait bien. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ces deux peuples, et Jésus n'a pas pris ces deux peuples au hasard, hein, pas du tout. Il cherche à faire comprendre quelque chose au docteur de la loi. Il le pousse dans ses retranchements. Vas-y, tu peux. Pourquoi il choisit le samaritain ? Alors pour ça, il faut faire un petit tour d'histoire. Est-ce que vous aimez bien l'histoire ou pas ? Est-ce que vous voulez savoir un peu plus d'histoire ? Qui connaît l'histoire de la Samarie ? Vous ne levez jamais la main, hein ? Je suis sûre qu'il y en a qui savent. Non ? Non. Bon, alors c'est bien. Alors merci Seigneur, merci. J'ai été inspirée. C'est important, hein, de connaître et d'être enseignée sur l'histoire d'Israël. Parce que sinon, si on comprend pas bien, on risque de passer à côté des messages que Jésus dit. Par exemple, si vous étudiez Nicodème, si vous ne connaissez pas Ézéchiel, ben vous aurez du mal à comprendre Nicodème. Ok ? Donc là, pour la parabole du bon samaritain, si vous ne connaissez pas l'histoire de la Samarie, vous aurez du mal à comprendre pourquoi c'est choquant que Jésus utilise le bon samaritain. On appuie sur quoi pour... Ah ouais, ça. Ah, j'ai toujours rêvé de faire ça. Ok. Donc là, nous avons Israël, ok ? Là, c'est le désert du Néguev. Là, on a la mer morte et le Jourdain, là où encore aujourd'hui, il y a des personnes qui sont baptisées. Il me semble que Samuel a été baptisé dans le Jourdain. Non. D'accord, voilà. Donc, si vous avez envie un jour de vous faire baptiser, qui n'est pas baptisé ici ? Eh ben voilà ! Ah ben, ben, ben. Ah ben, je ne le savais pas. Ah ben, Mounir, si tu veux, ben, un jour, je t'emmène là, en amoureux. Ok. D'accord. Donc là, nous avons tout Israël. Le désert, ok ? Jésus, poussé au désert, fut tenté pendant... Merci. Ici, hein ? Ici, la tentation. Par ici, vous avez, après, l'entrée vers... Merci, l'Égypte. Ici, alors là, c'est marrant. Nous avons écrit, il est marqué, Judas... au-dessus Samarie et au-dessus Galilée. Je ne vais pas revenir sur ici parce que vous n'êtes pas en train de faire une licence de théologie, n'est-ce pas ? Mais il est le plus important, c'est de comprendre qu'ici il y a Judas, ici il y a Samarie et ici il y a Galilée. Souvent dans le Nouveau Testament, on dit qu'il devait traverser la Samarie pour aller en Judée. Et ils n'étaient pas très contents, hein, d'y aller. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils ne s'aimaient pas. Ok ? Qui sont les Samaritains ? Les Samaritains, tu peux appuyer. Les Samaritains, ce sont des Juifs. Ok ? Des Juifs comme, comme Jésus, comme les Galiléens, comme les Judéens. Ok ? Jésus était Galiléen, il n'était pas Judéen. Ok. Les Samaritains sont du royaume du Nord, le royaume d'Israël, où la capitale est la Samarie. Alors là, c'est là où vient l'histoire. Accrochez-vous. Ça va, je vous perds pas ? Ok. En moins 722 avant Jésus-Christ, il n'y avait qu'un seul peuple, Israël. Ok ? Le problème, c'est que la Syrie, c'est le royaume qui est ici. Vous savez bien qu'ici, il y a la Syrie aujourd'hui. Mais avant, il y avait la Syrie qui était vraiment énorme, ok ? Qui était très 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 fort et un très grand pouvoir, une grosse frappe d'armée, qui a envahi Israël du Nord, la Samarie, ok ? Qui fait partie des 12 tribus d'Israël quand ils se sont mis en place, hein ? Et une grosse partie des Juifs de Samarie ont été déportés en Assyrie. Mais un jour, ils sont revenus. Le problème, c'est que les Juifs de Judée leur reprochaient de mélanger à la fois le culte avec Yahvé avec le culte des païens. Que faisaient les cultes des païens? Baal, Ishtar, toutes les divinités comme ça, ils faisaient de la prostitution sacrée. C'est-à-dire qu'ils prenaient des filles avec un prêtre, il y avait des prêtres, un ordre sacerdotal chez les païens. Ils construisaient des beaux hôtels et ils faisaient l'amour en l'honneur d'un dieu avec une fille qui était des prostituées sacrées. Ce qu'ils faisaient aussi, c'est qu'ils faisaient des sacrifices d'hommes, d'enfants envers les dieux, et ils passaient les enfants, faire passer les enfants par le feu, en gros c'est tuer des enfants, des bébés en les mettant dans le feu. Donc ils avaient, et puis ils pratiquaient aussi tout ce qui était divination, jeter des sorts, appeler les morts, toutes ces pratiques qu'aujourd'hui on peut retrouver éventuellement dans l'occultisme aujourd'hui, mais qui n'est plus sous divinité, mais c'est toujours là. Bien. Et donc les Juifs de Judée reprochent aux Juifs de faire un blougi-boulga de tout ça, parce que ça attire. Ils ont été attirés par le culte des païens. Et alors du coup, il y a une séparation qui se fait entre Samarie et Judas. Samarie qui dit « Mais non, je ne suis pas d'accord, on ne fait pas ça. » Mais bon, la réalité, c'est qu'on a des traces historiques et en effet, il y a eu du mélange de religions. Et donc, du coup, il y a une séparation et leur lieu de culte, c'est au mont Garizim. Il doit être par ici. Ok ? Mais qui sont alors les Juifs de Judée ? Vas-y. Les Juifs de Judée, ben, sont des Juifs, on est bien d'accord ? Du royaume de Juda, où on appelle la Judée. Encore sous le temps de Jésus, les Romains appelaient la Judée Judéa, la Judée. La capitale, c'est Jérusalem, et ils ont été, eux, envahis, pas par la Syrie en moins 720, et ils ont dit, nous n'avons pas été envahis par la Syrie. Pourquoi ? Parce que nous ne mélangeons pas notre rite avec des choses païennes. Ok ? Ça va ? Oui ? Avec des choses païennes. Mais, en moins 500, ils se font envahir eux aussi par Babylone. Ok ? Babylone, c'est l'Iran, l'Irak actuel. C'est plus ici, hein ? Assyrie, c'est plus là. Babylone, c'est plus là. Ok ? Et ils se font envahir en moins 500. Ils se veulent être les représentants de la foi en Yahweh. Leur lieu de culte, c'est Jérusalem. Et alors, la spécificité du prêtre, c'est celui qui assure les sacrifices perpétuels. Est-ce que vous êtes au courant que du temps où il y avait le temple à Jérusalem, même encore du temps de Jésus, il y avait des sacrifices perpétuels? C'est-à-dire que, par exemple, on voit que Marie et Joseph apportent des colombes quand Jésus arrive. C'est des sacrifices qu'on donne en l'honneur du premier-né. Okay ? C'était des choses qu'on retrouve beaucoup encore chez les Juifs, mais aussi chez les musulmans. Je ne sais plus le nom exactement, mais on offre des offrandes perpétuelles. Il y avait toujours des sacrifices au temple, et les prêtres étaient chargés de le faire. Tuer les animaux, les mettre à brûler. Et c'était tout le temps comme ça. Ok ? Et les Lévites, c'est celui qui veille sur le trésor du temple. C'est-à-dire que dans les offrandes, il n'y avait pas que des animaux, mais il y avait aussi de l'or, et qu'on donnait à l'Éternel. Et donc, il y avait un trésor. Et ceux qui dit trésor, dit voleur. Hein, Ali Baba, on est bien con. Et donc, du coup, il y avait des Lévites pour protéger. Donc, les prêtres et les Lévites, ce sont des personnes importantes. Donc des personnes qui connaissent la loi de Moïse, qui ont été éduquées, enseignées, qui ont fait l'école rabbinique et plus encore. Eh bien, sachez que ces deux peuples ne peuvent pas se voir. Ils ne peuvent pas se voir. Donc quand Jésus choisit prêtre, lévite, samaritain, il met le pied dans une affaire tellement épineuse. Où est-ce qu'il va ? Et il est en train de dire que ton prochain peut éventuellement être une personne à laquelle tu ne penses pas du tout. Au contraire, une personne que tu n'aimes pas. Qui a envie d'être aidé par une personne qu'on n'aime pas ? Personne. Alors pourquoi il dit ça au docteur de la loi? Il dit ça pour élargir son champ d'action, de ne pas rester enfermé dans une certaine vision des choses, et pour le confronter entre aimer et respecter sa fonction. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Ça va? Et quelle heure? Ah ouais, déjà. Peut-être que je vous ferai le message en deux fois. Ouais. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre qu'il veut élargir son champ d'action, qu'on peut être surpris par qui devient notre prochain, que tout le monde n'est pas notre prochain, disons-le. Mais il faut quand même aimer son ennemi. On aime son ennemi, mais tout le monde n'est pas ton prochain. Donc ça veut dire que celui qui est ton prochain aime, aime, aime. Vas-y. Donc si l'infirmière qui vient te voir, tu peux y aller. Voilà. Et qui peut être notre prochain aujourd'hui? Quand je pensais à ça, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire, si aujourd'hui Jésus venait nous voir, c'est lui qui prend le micro, qui choisirait-il à la place du bon samaritain? Ah, on serait choqués là. On serait un peu remués du popotin, je pense. Hein? Tu dis bêtises, toi, tu parles de chat et de... Alors, si on regarde dans la définition, ce sont des personnes qui croient en Dieu, mais qui mélangent un peu la foi avec d'autres choses et tout ça. Moi, c'est vrai que... Et c'est vrai. Au début, j'avais pas pensé à ces personnes-là, mais en parlant avec Jean-Luc, c'est vrai que par définition, objectivement, on peut penser aux catholiques, hein. Ouais. Ah bah oui, les catholiques, c'est les rois pour mélanger avec la voyance, le pendule, le patati patata. Je l'ai fait moi-même en étant catholique. Donc, bah voilà, aimons. Le catholique peut être notre prochain, beaucoup plus qu'un protestant. Oh. Mais ça peut être qui d'autre? Ça peut être un orthodoxe. Alors l'orthodoxe par rapport aux protestants, c'est encore pire. Hein. Voilà. Je sais pas si vous êtes déjà allé dans un temple orthodoxe. Je vous invite à y aller. C'est aux antipodes de notre manière de comprendre et de vivre la foi. Et pourtant, Jésus nous dit, il peut être ton prochain. On peut penser aux musulmans. Les musulmans croient en Dieu, croient aux prophètes, ils croient même que Jésus est un prophète. Encore mieux que les juifs, on a envie de dire. Mais, est-ce qu'ils ont raison? Bah, selon nous, non. Et pourtant, un musulman peut être plus notre prochain qu'un protestant, parce qu'il nous a aidés. Et alors les juifs? Les juifs aujourd'hui, bah, c'est grâce à eux qu'on connaît tout ce qui... Si je prends la parole aujourd'hui, sans les juifs, bah, je ne peux pas, parce que je ne comprends pas. Et c'est eux qui ont tout porté. Mais est-ce qu'ils croient en Jésus? Eh ben non. Ils disent même que c'est un imposteur. Ça nous fait mal. Et pourtant, un juif peut être notre prochain. Ok? Donc, c'est très, 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 très important de ne pas limiter l'amour de Dieu à une étiquette ou à nos préjugés ou à des histoires géopolitiques. Si aujourd'hui, je dis à un Palestinien, un juif peut être ton prochain, je me prends une balle. Si je dis à un juif actuellement qu'un Palestinien, ou pire, un Palestinien qui fait partie du Hamas, peut être ton prochain, je ne sais pas si ça passe, hein. Ça passe pas même, disons-le. Ok. Mais bon, je ne pense pas qu'une personne qui est du Hamas... viendrait en aide. Il a plutôt tendance à faire le contraire, hein, disons-le bien. Alors pour terminer mon message, et je vous dirai la fin de mon message un autre jour, ok, parce que c'est pas terminé, parce que ça explique pourquoi. Je vais vous laisser juste une interrogation pour vous donner envie de m'écouter la fois prochaine. Mais avant ça, j'ai juste un témoignage. Vous savez, mes grands-parents ont vécu la guerre 39-45, ici, et à Bailleul. Il me semble que t'es de Bailleul, voilà. Et donc, mais mon grand-père et ma grand-mère, du côté de ma mère, avaient 6 enfants. Et c'était Rue de Lille. Tu vois Rue de Lille ? Ils habitaient là, dans une maison. Et les Allemands avaient installé leur commandatour dans la mairie, dans le beffroi, là, le gros truc. Voilà. Ils étaient là, avec toute l'idéologie naziste et antisémite qu'on connaît, qui est juste horrible et qui a donné lieu à la Shoah, au four et tout ça, et j'en passe. Et ma tante, donc la première de leur fille, est tombée malade. Très, très gravement malade. Alors mon grand-père a mis son pouce dans la main. Il est allé à la commandatour. Il a expliqué les choses. Et le général commandant a sauvé ma tante. Il l'a sauvée alors qu'elle allait mourir. Et là, vous avez l'exemple typique d'un homme qu'on pourrait détester et qui est venu en aide. L'amour est plus fort que la haine. Toujours, toujours, toujours. Et c'est d'autant plus fort lorsque nous n'avons aucune raison d'aimer ces personnes. Alors une dernière chose sur cette interrogation que je vous laisse. Vas-y. Pourquoi est-ce étonnant que Jésus, je ne sais pas moi, si on vous dit qui aujourd'hui est censé le mieux représenter Jésus, vous allez dire nous. Qui est censé le plus représenter l'amour de Dieu, l'amour de Jésus? Mais nous. Et pourtant, j'ai rencontré plein de gens dire « Oh, l'Église, oh non, les chrétiens, ils disent pas ce qu'ils, ils font pas ce qu'ils disent. » Bon alors, ces personnes, ils sont peut-être appelées à peut-être se remettre en cause aussi. Mais, on se dit, quand même. Et là, on est dans la même situation. Pourquoi Jésus prend des personnes qui représentent Dieu en défaut et ils prennent un samaritain qui mélange un peu spiritisme, et puis lui, il le met dans une bonne position. Il y a quelque chose qui cloche. Et il y a encore quelque chose qui cloche encore plus. Je vais vous dire pourquoi. Vas-y. Vas-y. Ce qui cloche encore plus, c'est que dans la loi de Moïse, au Lévitique 21, au verset 1, voilà ce que Dieu demande à travers Moïse. Le Seigneur dit à Moïse de donner les enseignements suivants aux prêtres, fils d'Aaron. Un prêtre ne doit pas se rendre impur en touchant le corps d'un mort de la tribu de Lévi. Et il y a une mentalité comme ça. Là, juste en lisant, je viens d'avoir une révélation. De la tribu de Lévi, je pense que c'est important. Mais la plupart des Juifs se sont arrêtés à ne pas toucher le corps d'un mort. Donc, lorsqu'ils sont sur la route et qu'ils voient quelqu'un qui est potentiellement mort, est-ce qu'il a le droit de le toucher ? Non ! Non ! Il n'a pas le droit de le toucher, selon la loi de Moïse. Mais alors, moi, je ne comprends plus rien. Hein. Pourquoi Jésus leur reproche de ne pas aider la personne qui a besoin d'aide, si c'est lui-même qui lui a dit de ne pas le faire ? Alors là, il est contradictoire, Jésus. Je vais vous laisser sur ça. Est-ce que vous voulez avoir la réponse ? Oui. Eh bien, rendez-vous en janvier, parce que je ne veux pas prêcher d'ici là. Ok ? Voilà. On va rester sur ça. Parce que, bien sûr, j'ai la réponse. Hein ? Je ne veux pas faire un prêche si je n'ai pas la réponse. Mais je voudrais prier pour que, vraiment, on commence à ne pas avoir peur, à se poser des questions et à chercher la réponse. Et à ne pas rester des chrétiens de surface. Je me souviens, il y a une copine de Didier et Christine qui disait « Ah non, moi la Bible, j'y vais pas, elle me fait trop peur. » Ah, ça me fait mal quand j'entends ça. Mais oui, la Bible, elle fait peur. Parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et si on n'a pas été enseigné, si on n'a pas reçu un bon enseignement sur la Bible, on risque de partir en se disant « Non, mais de toute façon, je ne comprends rien, alors j'y vais pas. » N'ayons pas peur. N'ayez pas peur de vous poser des questions, de les mettre dans les bras du Seigneur et de chercher la réponse. On prie ? Ok. Seigneur Jésus.
Bonjour chers amis et bienvenue à Kfar Saba dans notre assemblée.
Voilà. Nous sommes... Je pense que c'est le cousin de. Seigneur Jésus, merci parce qu'un jour tu m'as parlé sur cette parole du bon samaritain. Et ce n'est que la partie 1 de la saison Shema Israël, écoute. D'ici janvier, peut-être que tu répondras à cette question dans leur cœur. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi tu mets en défaut les personnes qui représentent qui tu es ? Es-tu contradictoire, Seigneur ? Est-ce que tu te contredis ? Seigneur Jésus, viens parler dans nos cœurs. Viens nous enseigner. Fortifie aussi les enseignants dans tout ton royaume. Que l'on puisse amener les personnes sur le bon chemin que tu es. Et que chacun puisse. Maintenant, je prie vraiment par la puissance du Saint-Esprit que aucune personne ici n'ait plus peur de se poser des questions, de te les donner. Et par ta grâce, tu leur répondras. Amen. Passez un bon dimanche.
Est-ce que tout le monde reçoit les mails avec la newsletter ? Tout le monde ? Ok. La newsletter. C'est bon pour tout le monde ? Ok. Non. Christine. J'ai rien d'autre à ajouter à ce qui a été envoyé par mail. Ça va être exactement la même chose. La deuxième séance d'Arostavi donc a eu lieu dimanche dernier. Encore une bonne journée. Une bonne après-midi.